Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Je suis Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact. Et pour m'accompagner aujourd'hui, une personne que vous connaissez bien. Il s'agit de Kamal Louadj, présentateur de l'émission L'Afrique en Marche. Bonjour Kamal.
Bonjour Anthony et merci de m'avoir invité dans ton émission. Je salue tous nos auditeurs à Bamako.
Aujourd'hui, notre émission sera entièrement consacrée au sommet des BRICS de Johannesburg qui vient de s'achever. Et pour faire le bilan de cet événement diplomatique majeur de l'année 2023, je vous présente l'analyste français Bertrand Scholler.
Bonjour Anthony, bonjour Kamal.
Bonjour Bertrand, et c'est un plaisir de t'avoir encore une fois avec nous.
Plaisir partagé.
Alors tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Les nouveaux pays membres des BRICS ont donc été désignés. Je vais les citer. Il s'agit de l'Argentine, de l'Égypte, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, de l'Éthiopie et des Émirats Arabes Unis. En marge du sommet, on a la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, qui a commenté la portée de cette décision dans une interview exclusive accordée à Spoutnik. Et je vous propose de l'écouter tout de suite.
Quelle est l'importance de l'expansion des BRICS maintenant pour la paix et l'ordre mondial? Je pense que le mot-clé pour ce sommet, ces derniers jours, c'est la justice. Un ordre mondial plus juste. Ils en ont parlé avant et après. C'est justement les BRICS qui offrent la possibilité de réaliser en pratique ce qui est une préoccupation pertinente du monde entier. Aspiration, lutte, réalisation d'un ordre mondial plus juste, résistance des pays aux institutions néocoloniales, disposition libre de leurs ressources pour construire leur avenir. Nous l'avons vu devenir une pierre d'achoppement pendant des siècles, lorsque les pays qui se disent exceptionnels ont tout le monde sous la main. Donc, cette expansion n'est pas pour tic-tac, pas pour le côté formel de l'entreprise ou tout simplement car pourquoi ne pas participer au prochain forum? Tout le monde comprend que les relations d'égalité se construisent avec respect mutuel, non pas l'ingérence dans les affaires intérieures, non par l'oppression réciproque, mais au contraire, la coopération pour le bien commun. Par conséquent, un mot ne suffit pas. C'est un processus très difficile. Très important et attendu depuis longtemps. Et ce n'est pas seulement quantitatif, ce n'est pas seulement qualitatif dans le sens où toute expansion donne plus de possibilités. C'est le reflet de processus beaucoup plus complexes. Le président de la Russie et le ministre des Affaires étrangères de notre pays en ont parlé aujourd'hui. Et cela ressort clairement dans de nombreuses déclarations. Pour moi, le discours du secrétaire général des Nations Unies était une dissonance. Vous êtes ici à écouter les gens parler du vital. Et tout d'un coup, vous avez sur un vaisseau spatial d'une autre planète, un message arrive dans une capsule qui, je pense, sonne dans un langage bureaucratique cliché, sans comprendre de quoi tout le monde parle et ce que tout le monde veut. Et ici, au forum, l'idée a été exprimée à plusieurs reprises que le format des BRICS aiderait à lutter contre le néocolonialisme. C'est ce dont je parlais et ce qui, je pense, allait sortir de la bouche du secrétaire général de l'ONU. Il a rappelé que l'ONU avait été créée précisément sur la base des résultats de la Seconde Guerre mondiale et que de nombreux pays n'existaient pas encore. Et il a évoqué le processus de décolonisation. Il ne suffit pas de le mentionner. Cela doit être mis en corrélation avec la crise actuelle des affaires mondiales et comprendre d'où vient cette crise. Notamment lorsque certains ont commencé à réécrire pour nous l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, tandis que d'autres ont commencé à utiliser les opportunités pour réimplanter des idées coloniales. Le secrétaire général des Nations Unies ne le voit-il pas? Il doit le comprendre et en parler. À cet égard, il est significatif que deux nouveaux membres africains ont rejoint le format BRICS. Comment évaluez-vous cela? Comme un mouvement vers une plus grande justice. Parce que l'Afrique, qui pendant de nombreux siècles a nourri de ses ressources tous ceux que l'on appelle généralement les pays leaders, commence enfin non seulement à élever la voix, mais à acquérir une place digne. Comme le disent les dirigeants africains et comme je le vois aussi, l'Afrique est toujours associée avec des problèmes dans l'espace médiatique international. Personne n'a même l'intention de rappeler que ce n'est pas l'Afrique qui a créé ces problèmes, mais ceux qui y sont arrivés sans invitation, qui l'ont réduite en esclavage pour plusieurs siècles, ceux qui l'ont maltraitée par tous les moyens et qui ont laissé après eux des questions colossales irrésolues, créées artificiellement.
Monsieur Scholler, nous venons donc d'écouter à l'instant la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, sur l'élargissement des BRICS. Et vous, quelle est votre réaction face à cette décision ?
Alors, d'une part, il y avait 23 pays qui avaient officiellement déposé une candidature pour rejoindre les BRICS dès ce 15e sommet qui avait lieu à Pretoria en Afrique du Sud. Donc, ils en ont choisi 6. Et ma réaction quand j'ai vu la liste est que ça n'a pas du tout été un choix honorifique ou pour afficher une idée de puissance, même si quand un pays comme l'Arabie Saoudite rejoint un groupe comme les BRICS, évidemment ça pèse lourd compte tenu de l'importance de ce pays pour les pétrodollars. Mais on a vraiment l'impression qu'en fait les pays qui rejoignent les BRICS sont des pays qui vont être aidé dans le cadre de missions. Et je vais préciser ce que je veux dire, parce que, à mon avis, c'est vraiment fondamental. La Chine et la Russie ont exprimé depuis longtemps, et surtout la Chine, c'est quelque chose de récent, la nécessité de faire la paix entre Israël, la Palestine et les voisins. Et quand vous avez dans le même groupe de pays, la Russie, la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, donc tous les pays qui entourent ou qui ont envie d'être impliqués dans le processus de paix au Proche-Orient, je dis, tiens, c'est extrêmement encourageant. Il y a peut-être maintenant au sein des BRICS quelque chose qui va se passer, une dynamique qui va se passer et qui permettrait de résoudre ce problème qui existe depuis 70 ans et qui a de graves conséquences pour l'équilibre même global de la planète. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand vous avez l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie, l'Égypte à nouveau qui sont là et qu'on connaît tous les problèmes dans ce côté de l'Afrique avec les guerres au Soudan, Yémen, et ben on se dit, tiens, l'Éthiopie est là et c'est pas un hasard, c'est un pays qui pourrait aider à stabiliser également cette région. D'abord, c'est un pays qui, historiquement, est très important, et c'est un des rares pays d'Afrique qui n'a jamais été colonisé, l'Éthiopie. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était bien, et surtout, maintenant, il y a, en pays d'Afrique, il y a 3 pays d'Afrique sur 11 membres des BRICS, puisqu'il y a 6 nouveaux membres, il y en avait 5 fondateurs. Donc, ça donne un poids fort à l'Afrique. Alors l'Argentine rejoint les BRICS, ce qui fait que du côté des Amériques, il y a 2 pays, mais évidemment il n'y a pas encore de pays en Amérique du Nord, et j'attends avec impatience la candidature du Mexique, ce qui pourrait fâcher l'oncle Sam. Mais déjà d'un point de vue stabilisation et paix dans le monde, c'est incroyable d'avoir l'Iran et dans un groupe, quand on voit tous les embargos, et dans un groupe dans lequel il y a également l'Arabie Saoudite. Mais surtout, pour moi, ce que j'ai vu quand j'ai entendu cette liste, c'est de belles perspectives pour une paix entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est ça qui a été ma première lecture en voyant le focus sur le proche Moyen-Orient de la liste avec Égypte, vraiment Arabie Saoudite et Iran. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est toutes les déclarations qui ont été faites. Mais ça, je pense qu'on va en parler au fur et à mesure au niveau des monnaies, au niveau de la stabilité dans le monde, au niveau du rôle que ne joue plus comme il devrait l'ONU. Et donc, on voit qu'il est en train de se créer quelque chose de parallèle pour sortir de l'hégémonie américaine ou occidentale, si on inclut, entre guillemets, un petit rôle pour les Européens et les Japonais.
Bien, j'aimerais quand même apporter une chose et vous demander votre avis, M. Bertrand Scholler. Il y a 4 pays la Russie, la Chine, l'Inde et l'Iran, qui sont en même temps membres des BRICS et en même temps membres de l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors, moi, je vois que s'il y a ce trait d'union et une coopération serrée entre les deux organisations, on peut dire que ce que Mackinder appelait dans sa théorie l'île du monde, là, elle commence vraiment à prendre le pouvoir dans le monde.
Oui, alors, tout à fait. Alors, il faut bien voir. Et moi, j'ai écouté les discours d'introduction et de clôture. Il y a deux pays qui ont une forme de leadership dans le groupe, mais de leadership par rapport à l'esprit. Donc, qui est l'esprit de pluralisme international, souveraineté des pays, d'entraide, partage de technologies, etc., qui sont la Chine, donc qui est le leader aussi au sein de l'organisation de coopération de Shanghai, et la Russie. Mais les autres pays, donc Inde, Brésil et Afrique du Sud, sont des pays leaders, entre guillemets, sur leur continent. Donc, oui, on a une organisation mondiale dans laquelle l'Amérique du Nord n'est pas représentée, et ni évidemment dans l'organisation de coopération de Shanghai, ni l'Europe, à part par la Russie, qui est à cheval entre l'Europe et l'Asie. Donc on a bien deux mondes, entre guillemets, qui sont antagonistes, mais d'un point de vue démographie, d'un point de vue route commerciale, d'un point de vue pétrole, d'un point de vue dynamisme démographique, économique, etc.
Et même militaire, on peut dire.
Et militaire. Alors oui, ben on voit avec ce qui se passe entre l'OTAN dans son intégralité qui est en train de s'épuiser face à une Russie qui ne fait qu'appliquer la stratégie qu'elle a annoncée dès le début, c'est-à-dire éliminer toute l'armée et les velléités guerrières de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Et sans l'implication totale de l'OTAN, cette guerre serait terminée depuis très longtemps. Donc oui, c'est très encourageant ce qui se passe, puisqu'il y a encore quelques années, tout ça paraissait complètement improbable. Il y avait une telle domination sur le monde des États-Unis avec le dollar, avec leurs armées, avec les réseaux sociaux, avec les médias, mais également avec tout ce qui est technologie, médecine, armement, que c'est un retournement comme on voit très peu à l'échelle d'une ville. Un retournement géopolitique maintenant. Comment est-ce qu'ils vont réagir face à ça? Est-ce qu'il va y avoir plus de guerres, plus de terrorisme, plus de sanctions? Je ne sais pas. Parfois, ça m'inquiète parce que aux États-Unis, ils ont quand même un président qui est très vieux et qui semble extrêmement limité, et qui a beaucoup, beaucoup d'affaires et de scandales qui l'entourent, hein, de scandales qui l'entourent personnellement et de scandales qui entourent les membres de sa famille. C'est vrai partout dans l'Occident où il y a des chefs d'État qui sont quand même relativement jeunes, pour pas dire immatures. Et au Japon, je rappelle quand même qu'un premier ministre a été tué, qui n'était pas véritablement un premier ministre très aligné, qui a été remplacé par un beaucoup plus aligné. Donc on a un monde occidental qui est de plus en plus rabougri sur lui-même et qui pourrait... le calme et la force tranquille des Russes et des Chinois est bienvenu en ce moment.
Alors moi, Monsieur Scholler, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous aviez déclaré tout à l'heure. 23 pays candidats. Et c'est la chef de la diplomatie sud-africaine, Naledi Pandor, qui l'avait annoncé. Et nos auditeurs se posent certainement cette question. Pourquoi le choix s'est porté sur les 6 pays que l'on a cités précédemment, à savoir, je rappelle si nos auditeurs viennent de nous rejoindre, à savoir l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie et les Émirats Arabes Unis. Pourquoi ces pays-là ont été admis et quels sont les atouts de chacun?
Alors, les pays ont été admis D'une part, parce que ils sont les pays sur lesquels il y a vraiment des enjeux de stabilité les plus forts en ce moment. C'est-à-dire, dans le monde, évidemment, il y a les tensions en Ukraine, mais ça ne pourra pas se résoudre très facilement. Mais il y a vraiment les tensions au Proche-Orient. Et maintenant que l'Arabie Saoudite et l'Iran ont complètement normalisé leurs relations, ils ont chacun ouvert leurs consulats, leurs ambassades, alors qu'il n'y en avait plus depuis très longtemps entre les différents pays. Donc on comprend, donc pour la paix, ce que je disais un peu en introduction, c'est des choix très intéressants. Mais je pense que la clé des BRICS, c'est vraiment une clé monétaire. Et la puissance monétaire, puisque le sein de l'économie mondiale, ce sont les énergies essentiellement pétrole, gaz, puisque ça représente plus de 50% de la consommation énergétique mondiale, c'était grâce à des contrats signés entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, et donc les Émirats, qui sont des grands producteurs de pétrole et de gaz dans cette région, avec l'Iran, qui a des réserves considérables, on inverse complètement la relation de force des États-Unis pour imposer le dollar dans les transactions de ces pays-là. Puisque tous les pays, un par un, se sont exprimés en disant « on veut pouvoir utiliser nos monnaies nationales dans le cadre de transactions sécurisées » avec des nouveaux systèmes d'échange. Aujourd'hui, en fait, les systèmes d'échange, ils sont basés sur des monnaies dites de réserve, qui sont le dollar, l'euro, le yen, le franc suisse et le yuan, mais dans une très très faible part. Donc quand Xi Jinping était allé à Moscou, avait rencontré Poutine, en conclusion, avait dit que lui, il l'encourageait même tout le monde à utiliser le yuan s'il voulait se passer du pétrole, pas du pétrole, du dollar, parce qu'il y avait une fiabilité avec la Chine qui n'existait plus avec ni les États-Unis ni l'Europe, compte tenu des sanctions qui avaient touché la Russie. Je rappelle que c'est plusieurs centaines de milliards de dollars qui ont été confisqués, et maintenant ils essayent tous les artifices juridiques pour s'attribuer cet argent, soi-disant pour reconstruire l'Ukraine, alors que c'est la Russie aujourd'hui qui reconstruit au fur et à mesure les régions qui ont été détruites par la guerre. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe par exemple à Mariupol, qui est une ville en train de complètement renaître après les combats. Donc les pays choisis sont des pays clés pour affaiblir le pétrodollar, donc affaiblir le dollar, et donner envie à tous les peuples, à tous les pays, de se libérer de cette hégémonie monétaire du dollar et de l'euro. Et d'accord. Donc la banque des BRICS, qui est dirigée par Dilma Rousseff, donc une ancienne présidente brésilienne, a ce rôle de permettre de trouver des mécanismes qui vont fluidifier et sécuriser les échanges entre monnaies nationales, sans passer forcément par le SWIFT, et à terme sans être obligé d'utiliser les systèmes Visa, Mastercard, les systèmes occidentaux, parce qu'on voit bien, les Russes ont mis en place ce système MIR, mais c'est des choses compliquées, il y a beaucoup de pays qui sont intéressés, mais aujourd'hui, c'est ce que disait Vladimir Poutine, que disait Lavrov, ce que disait Xi Jinping, etc., c'est des choses qui sont... C'est comme un jeu de Mikado, ce jeu où on fait tomber plein de petits bâtons et on doit les tirer sans faire bouger les autres. Le système monétaire et la force qu'ont eu les Américains depuis très longtemps, depuis la création des réserves fédérales, ça a été de rendre tout ça si intriqué que c'est pratiquement impossible d'y échapper. C'est un peu comme les contrats pour les pays qui rejoignent l'Union européenne. C'est fait pour y rentrer, mais c'est pas fait pour en sortir. Et ben, l'exploit que sont en train de réaliser les BRICS, c'est de trouver pas à pas des solutions pour échapper à la domination du dollar. Et les premiers pays choisis sont des pays essentiels pour y parvenir. Déjà, avoir pris 6 nouveaux membres, c'est énorme, puisqu'il y avait 5 membres d'origine, et là, il y en a 6 qui rejoignent, donc ça fait plus que doubler. Mais beaucoup de place donnée à l'Afrique, c'est surtout ça qu'il faut retenir, et au proche Moyen-Orient. Donc c'est véritablement les régions où se trouvent d'énormes ressources dans le monde entier. Donc il y a l'industrie au sein des BRICS, avec la Chine et la Russie, hein, qui est une bonne industrie militaire et industrie lourde, et les ressources minières et pétrolières. Donc le pouvoir est là maintenant, et la démocratie aussi.
Moi, il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir avec vous, et évidemment c'est une question que se pose tous nos auditeurs qui sont en Afrique. Comme vous l'avez dit, une place importante a été accordée à l'Afrique. Et donc, on a ces deux pays africains, à savoir l'Égypte et l'Éthiopie, qui rejoindront les BRICS au 1er janvier 2024. D'ailleurs, pour information, pour nos auditeurs, le nom BRICS ne changera pas suite à l'adhésion, à l'intégration de ces nouveaux membres. Et la question que se posent certainement ceux qui nous écoutent, quelle sera l'ampleur des retombées pour ces pays-là et comment le continent africain pourra en tirer profit dans un monde multipolaire?
Alors déjà, c'est pas du tout un détail, mais dans son discours, le Premier ministre éthiopien, quand il a su que son pays rejoignait les BRICS, a félicité son peuple. Et j'ai trouvé ça très beau parce que en général, on félicite l'équipe qui a négocié, on félicite plein de monde, mais les peuples sont toujours oubliés. Donc ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que les nouveaux dirigeants moins alignés en Afrique s'intéressent véritablement à leur peuple et remercient leur peuple pour tout ce qui se passe, puisqu'on voit bien que ce soit au Mali, au Niger, etc., dès qu'il y a des vérités militaires d'être renversé par la CDAO ou par d'autres pays, en fait, le peuple sort dans la rue et dit « nous, on est solidaires du nouveau pouvoir de transition ». Alors, comment ça va se passer? Je pense que ça se passe déjà. C'est-à-dire que les pays africains ont une nouvelle génération de chefs militaires, de penseurs, de philosophes, peut-être beaucoup plus actifs, qui ont su trouver avec la Russie et la Chine, qui ont ouvert leurs universités à des jeunes Africains, parce qu'historiquement c'était uniquement l'Europe et les États-Unis qui formaient les Africains, donc on les formait véritablement à nos intérêts. Et donc ça, c'est le grand changement. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération qui retourne en Afrique, qui veulent prendre le destin de ce continent en main. C'est quand même un continent dans lequel il y a 53 pays en Afrique. Donc c'est le continent sur lequel il y a le plus de pays qui sont tout petits et dans lesquels toujours l'Occident depuis les colonies a attisé des guerres. Enfin, on voit le Soudan et le Sud-Soudan, enfin, qui sont en guerre. Une partie qui a le pétrole, l'autre qui a la nourriture. Enfin,
la République démocratique du Congo aussi.
Ouais, le Congo, Rwanda. Enfin, et puis c'est des millions de morts à chaque fois. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas l'occasion de se battre. Il y a toujours des conflits ethniques. Peut-être le seul où les choses sont relativement stables depuis pas mal d'années, c'est l'Ouganda. Enfin, dans cette partie où il y a beaucoup de guerres, on voit les tensions évidemment et tous les bons terroristes entre guillemets qui sont souvent retrouvés en communication avec des armées occidentales, bah dans les zones riches en minerais, en diamants, en uranium d'Afrique. Donc on voit que l'Afrique a toujours été utilisée, pour reprendre l'expression des faucons américains. L'idée, c'était de les maintenir à l'âge des cavernes, comme quand ils sont allés attaquer l'Irak en disant on va les ramener à l'âge des cavernes, pour pouvoir les dominer. Et la grosse différence, et c'est ce que disent les beaucoup d'Africains, c'est qu'ils n'ont pas l'impression que les Russes et les Chinois viennent pour les coloniser. Au contraire, les Russes ont la réputation d'aider ces pays à mettre en place des armées qui sont autonomes, qui sont formées, qui sont ambitieuses, entre guillemets, pour assurer la sécurité des citoyens et assurer la sécurité des infrastructures économiques. Et puis les Chinois, eux, mettent en place d'incroyables infrastructures. Ben, ils ont construit des ponts qu'ils ont entièrement financés en sachant très bien qu'ils retrouveraient pas leur bille par rapport au financement du pont, mais ils retrouveraient leur bille dans cette espèce de très très belle logique du « si je donne les moyens à l'Afrique de grandir et que je suis un leader de l'économie et de l'industrie mondiale, ce qui est le cas de la Chine, j'en tirerai indirectement profit ». Les Chinois, ils sont rationnels. Hein.
Monsieur Scholler, dans le même sens de ce que vous venez de développer, j'aimerais attirer l'attention sur deux choses dans les déclarations finales de ce sommet. C'est que la déclaration finale note sans équivoque que les BRICS et les pays qui viennent de le rejoindre souhaitent garder le G20 comme un forum de dialogue où les problèmes seront résolus. Donc le G20, donc on a l'Inde, la Chine, la Russie, maintenant et l'Arabie Saoudite, les Émirats. Enfin, c'est-à-dire que ces pays peuvent négocier comme un bloc au sein du G20. Donc les BRICS ne viennent pas dans une logique de confrontation, mais c'est juste l'idée d'imposer le respect et de mettre un terme à la domination, à l'hégémonie, d'un côté. Et de l'autre côté, il y a aussi, ils appellent à maintenir l'ONU comme organisation internationale dans laquelle vont se discuter et se résoudre les problèmes et les conflits internationaux. Alors ces deux points-là, est-ce que ne seront pas justement un moyen pour l'Afrique de trouver, sur le plan politique et sur le plan sécuritaire et sur le plan géopolitique, une espèce de stabilité, de paix dans lesquelles pourraient se déployer justement des politiques de développement?
Alors, je pense que tout ça, c'est fondamental. Et on le voit depuis deux ans avec l'opération spéciale en Ukraine, c'est l'envie d'essayer de faire à minima. Tout le monde avait remarqué, les experts militaires, au début de l'opération, les Russes sont pour éviter de faire du mal aux populations civiles, hein, comme ça avait pu se passer en Yougoslavie ou en Irak dans d'autres temps. Ben, ils ont avancé beaucoup plus au sol qu'avec des pluies de missiles, etc. Et c'est vrai aussi avec les organisations internationales. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de briser l'hégémonie, mais il y a surtout la volonté de maintenir au maximum une forme de stabilité. C'est-à-dire qu'il y a des outils, les G20, donc des moments de dialogue entre les pays, qui sont importants, qui doivent être conservés, mais ils doivent être conservés pour être des vrais outils de dialogue, pas des outils où il y a un pays qui impose, un pays ou un groupe de pays qui impose en permanence ses vues aux autres. Et la grosse différence des BRICS, et c'est peut-être l'aspect le plus important pour les Africains, et on verra avec le temps, mais c'est que sa vocation, c'est véritablement d'être un lieu pour trouver des solutions qui permettent à tous les pays de gagner réellement leur souveraineté.
D'autant plus que les BRICS parlent du Sud global, donc au sein du G20, on peut dire que le Sud global sera encore mieux représenté par un groupe qui a encore beaucoup plus de poids pour créer justement cet équilibre.
Oui, je suis tout à fait d'accord, mais dans le G20, il n'y aura pas plus de pays africains. En revanche, effectivement, la voix des pays africains sera plus entendue. Mais ça, c'était déjà un peu le cas. Je pense que la clé, c'est, et c'est ce qu'ils ont répété tous les jours pendant le sommet des BRICS, c'est de faire en sorte que les pays africains puissent choisir leur destin, certainement sortir du franc CFA et de la domination du dollar, et profiter de la manne de leurs ressources. Quand on regarde une carte des ressources primaires qu'il y a en Afrique, on se dit mais c'est pas possible que ce continent soit pas extraordinairement riche. Il a tout pour réussir. Il a une grosse démographie, beaucoup de richesses et plein de pays qui sont prêts à véritablement l'aider et co-investir. Donc le Sud global, effectivement, est très représenté dans les BRICS, puisque deux pays d'Amérique du Sud, trois pays d'Afrique, et bon, on ne peut pas mettre dans le Sud global l'Arabie Saoudite et les Émirats, mais on a, sur 11 pays, on a 5 pays qui sont véritablement des pays dits de ce qu'on appelle le Sud. Oui.
De retour sur les antennes de Maliba FM à Bamako. Vous écoutez Spoutnik Afrique et l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Et aujourd'hui, exceptionnellement, mon collègue Kamal Louadj de l'émission L'Afrique en Marche est avec moi.
Merci Anthony et je resalue nos auditeurs.
Et aujourd'hui, pour continuer cette émission, nous avons Bertrand Scholler, analyste français.
Bonjour Kamal, bonjour Anthony.
Oui, rebonjour. Bonjour pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Maintenant, j'aimerais que l'on se tourne vers l'avenir. Vous aviez parlé de la problématique de l'élargissement des BRICS. On a 23 pays qui ont fait leur demande. Et il y a une déclaration très, très intéressante de l'ambassadeur itinérant sud-africain auprès des BRICS, Anil Souklal, qui a déclaré chez nous, à Spoutnik Afrique, que l'incorporation des 6 pays membres n'était qu'une première étape en raison de l'important nombre de pays ayant candidaté pour adhérer aux BRICS. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir de quelle manière le groupe pourra-t-il procéder pour intégrer ces autres pays à l'avenir.
Alors déjà, le président russe a proposé en 2024 de réunir les BRICS à Kazan. Donc, pour le 16e sommet des BRICS. Et je pense qu'à cette occasion, d'une part, il y aura des nouveaux candidats. Donc, aujourd'hui, il reste 17 candidats qui n'ont pas été intégrés. Et je sais que beaucoup regrettent que l'Algérie, par exemple, n'ait pas rejoint dès cette fournée des BRICS. Mais je pense qu'il y aura de nouveau peut-être 25 ou 30 candidatures pour les BRICS et des gros pays. Hein. Moi, j'imagine l'Indonésie. Il y a beaucoup de pays comme le Vietnam qui pourrait décider d'émettre une candidature. Donc, je pense que les résultats que les BRICS vont obtenir, là, ils préparent en fait, c'est ce qu'ils ont dit, ils commencent à travailler tout de suite avec les pays mais qui vont être officiellement intégrés au BRICS Plus à partir de janvier 2024. Mais je pense qu'ils vont travailler et ils vont très rapidement montrer des résultats tangibles. C'est ce que vous me demandiez dans la première partie de l'émission, donc des résultats tangibles en termes monétaires. Donc aujourd'hui, les monnaies occidentales représentent plus de 80% du commerce mondial. Enfin, juste le dollar, en réalité, le yuan, c'est 4%. Donc si on regarde juste dollar, francs, euros et yen, ça doit être 92%, ou peut-être 95% des échanges mondiaux. Donc si d'ici le prochain sommet... Le yuan et les autres monnaies arrivaient réellement à 20% du commerce mondial, voire plus, déjà ce serait quelque chose de majeur. Et c'est en train d'être le cas puisque beaucoup de pays ont décidé de commercer entre eux, à commencer par l'Iran évidemment, avec toute autre monnaie que le dollar, puisque l'Iran et la Russie commercent maintenant uniquement dans leur monnaie nationale. Et ce sont des gros volumes d'échanges. Je pense que la Chine fait pareil avec l'Iran. Donc on a ça. Après, il y a toute la stabilisation. On a vu la vitesse à laquelle, quand les Chinois se sont impliqués et les Russes, le processus de normalisation et de paix entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, qui semblait être une guerre qui n'en finirait pas et qui tuait des centaines de milliers de personnes, soit de faim et soit par les armes. Donc tout ça se calme. On entend beaucoup moins parler en ce moment Israël de l'Iran. Je vous rappelle que épisodiquement depuis 10 ans, les premiers ministres israéliens annoncent tous les ans que d'ici 6 mois maximum, l'Iran aura une bombe nucléaire. On n'en entend plus parler et pourtant, qu'est-ce qui se passe? L'Iran présente au sommet militaire il y a 15 jours en Russie des missiles balistiques, des nouveaux drones, enfin des nouveaux engins qui sont vraiment top niveau par rapport à ce qui est fait dans le monde entier. Et on parle beaucoup hein, de leurs drones, mais donc là maintenant c'est vraiment des missiles intercontinentaux, des missiles balistiques qui sont mis en œuvre. Donc c'est véritablement aujourd'hui une puissance militaire régionale assumée et qui commerce maintenant avec ses armes, donc plus uniquement avec son pétrole, mais il y a vraiment du commerce donc d'agroalimentaire, ils ont une grosse agriculture. Du pétrole et maintenant des armes et bientôt d'autres technologies. Donc on voit que les embargos en fait ne fonctionnent plus et les BRICS vont permettre un développement à mon avis de l'Iran qui va être considérable parce que c'est un pays riche, puissant et surtout ce qu'on voit dans les pays des BRICS qui sont choisis, c'est qu'il y a beaucoup de religions différentes. Il y a des peuples qui ont une très grande histoire, qui sont aucun d'eux n'est en guerre ou en conflit en ce moment. Donc ils ont tous un enjeu sur lequel ils peuvent appuyer pour améliorer la stabilité mondiale. Ça, je le répète. Hein, et ce qui m'a impressionné dans le choix des BRICS, c'est ce point-là.
Pour l'Afrique, elle a pris la part du lion, si l'on peut dire, dans les discussions de ce sommet. Vous venez de soulever un point très important, parce que, quoi que l'on puisse dire, d'ailleurs même les chefs d'État l'ont reconnu, les BRICS n'ont pas de siège, n'ont pas de statut. Il y a beaucoup de choses à faire déjà du point de vue de l'organisation. Mais on peut, comme je crois que c'est une très bonne idée, les pays africains peuvent déjà faire un premier pas vers l'adhésion aux BRICS en adhérant à la Banque de développement des BRICS. C'est ce que l'Algérie a fait, par exemple. Elle a déposé 1,5 milliard de dollars dans cette banque. Donc, déjà, en faisant partie de cette banque, les pays africains pourraient avoir des crédits, pourraient avoir des prêts pour financer des projets de développement. C'est déjà un pas très important en attendant la confirmation sur le plan politique et institutionnel.
Oui, ben, ça c'est effectivement cette banque des BRICS, elle est ouverte, donc elle fonctionne pas sur les mêmes règles que les BRICS avec un système d'invitation. Et peut-être comme c'était en Afrique, donc ce sommet, on a vu une part du lion pour les pays africains. Si le suivant a bien lieu en Russie, on imagine que l'Asie centrale va être à l'honneur. Et on peut penser à des pays comme le Kazakhstan, on peut penser à des pays comme l'Ouzbékistan, Turkménistan, Azerbaïdjan. Enfin, bon, après, il y a le conflit avec l'Arménie. Mais on voit que les BRICS, en fait, à chaque sommet, un peu comme des compétitions internationales de foot, ben, vont mettre en lumière en fait un continent et vont faire des actions particulières pour le continent en question. Donc oui, l'Afrique va véritablement peut-être profiter et avoir le plus d'impact dans les années qui viennent de leur rapprochement au sein des BRICS. Mais je pense que c'est le monde entier qui voit une nouvelle manière de fonctionner se mettre en place. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est une manière de fonctionner qui est totalement différente. C'est-à-dire, si on prend les discours de présidents américains, de patrons de Fed ou de grands groupes américains ou d'auteurs, c'était toujours le dollar, c'est notre monnaie et c'est votre problème. Enfin, il y avait toujours beaucoup de cynisme. Et là, en fait, chez les BRICS, il n'y a pas de cynisme. Il y a une vraie maturité dans les discours. Il y a, enfin, moi, j'ai écouté véritablement tous les discours, enfin, dans les versions traduites, je ne comprends pas beaucoup de, enfin, je comprends pas le chinois ni le russe. Hein. Mais c'était, enfin, même Vladimir Poutine a insisté sur beaucoup de choses, mais il a y compris parlé de la place des femmes. Alors que souvent, il y a cette image d'Épinal d'un pays macho contre. Il y a beaucoup de bruits qui sont répandus sur les Russes. Il y a des lois qui permettent aux maris de battre leurs femmes. Enfin, toutes ces choses complètement absurdes qui se répandent sur les réseaux sociaux. Alors qu'en fait, il suffit d'écouter les chefs d'État.
Vous avez raison justement de revenir sur la place des femmes, car il n'y a pas que Vladimir Poutine. On a également eu des déclarations concernant les femmes africaines. C'était de mémoire M. Ramaphosa qui en avait parlé, qui avait dit qu'il faut donner les moyens aux femmes africaines de pouvoir faire du commerce et contribuer au développement économique du continent africain aussi. Donc il y a eu une très grande place accordée à la femme au sein de ce sommet et vous avez tout à fait raison de revenir là-dessus.
Et juste un point, quand on voit la photo de fin de sommet des BRICS, il y a pas mal de femmes et pas mal de chefs d'État femmes en Afrique ou de chefs de gouvernement. Donc, je pense que c'est l'Afrique, de toute façon, et même des sociétés proches Moyen-Orient, contrairement à ce qu'on croit beaucoup, les femmes sont extrêmement importantes, elles sont très respectées. Souvent, d'ailleurs, elles vivent, mais c'est vrai partout dans le monde, mais elles vivent véritablement bien plus longtemps que les hommes dans ces pays-là. Et donc, elles gardent un savoir-faire, elles gardent une connaissance. Et donc, les femmes sont des acteurs importants. Mais c'était, effectivement, beaucoup en ont parlé. Mais le fait que Vladimir Poutine l'ait mis dans son discours, pour moi, c'était vraiment symbolique de sa capacité, à chaque fois, en 5 ou 10 minutes, d'appuyer sur les 10 ou 15 points les plus importants de l'année qui va suivre, en fait, les années qui vont suivre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, depuis les années 90, dans ses discours, et je ne fais pas du tout, je ne suis pas gaga devant lui, c'est vrai que j'apprécie beaucoup cette clarté, cette capacité de toujours dire et annoncer ce qu'il va faire, pourquoi il va faire, et faire ce qu'il a dit. Et donc, parler des femmes, c'était pas du tout commercial. Hein. Comme vous l'avez souligné, Anthony, c'est une des clés de l'avenir de l'Afrique. Hein. C'est de donner plus de pouvoir économique aux femmes, hein. Et pas uniquement un pouvoir au sein des familles.
Moi, je voudrais rebondir avec vous sur un chiffre qui a été donné par le président brésilien Lula da Silva. Il a déclaré que le PIB mondial des BRICS, après l'élargissement, représentera 37%. Et donc, la question que je vous pose, c'est comment l'arrivée de nouveaux membres permettra d'accélérer encore davantage l'émergence d'un monde multipolaire, faisant des BRICS la puissance mondiale majeure?
Alors, déjà, et ça, j'aime bien insister là-dessus, mais le GDP, donc le PIB mondial, il est pour les BRICS essentiellement primaire et secondaire, c'est-à-dire les matières premières et l'industrie, et pour lesquelles il y a des prix qui ont été très régulés par les pays occidentaux, qui eux, c'est essentiellement tertiaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils incluent des avocats qui sont payés des milliers de dollars de l'heure, des banquiers qui sont payés, ou des consultants qui sont payés également des milliers de dollars de l'heure. Et donc, il y a une disproportion de vent, et j'utilise véritablement le mot vent. Donc, c'est 37% par rapport aux modes de calcul qui sont ceux de l'Occident aujourd'hui. Mais en réalité, en puissance réelle, puisque la puissance réelle, elle est sur ce qu'on produit. Donc, et produire de l'intelligence, je crache pas du tout dessus, mais quand la valeur est disproportionnée, c'est-à-dire qu'en une heure, les gens gagnent ce que peut gagner un Africain en une année, il y a quelque chose qui est complètement anormal. Et donc, la puissance, elle est déjà au sein des BRICS. C'est-à-dire que là encore, ils respectent les modes de calcul historiques, ceux qui sont communément acceptés. Mais vous allez voir qu'à partir du moment où les Occidentaux vont devoir payer ce qu'ils prennent en Afrique, ce qu'ils prennent en Russie, ce qu'ils prennent même en Chine ou partout au vrai prix, c'est-à-dire quand les Chinois vont dire bah non, mais jusqu'à présent, vous payez très peu cher parce que nos salariés, ils acceptaient des tout petits salaires, etc. Maintenant, il va falloir payer le vrai prix. Quand il va falloir payer l'uranium au prix du marché au Niger, etc., etc., les choses vont changer considérablement. Et le poids, en fait, sans avoir besoin de rallier de nouveaux pays, est déjà, à mon avis, plus de 50% de l'économie réelle mondiale. C'est pour maintenir...
Pour rappel, c'est que monsieur le président brésilien Lula da Silva, les 37% du PIB qu'il a annoncé, il est calculé en parité de pouvoir d'achat. Ce n'est pas le PIB nominal. C'est-à-dire, c'est le PIB le plus proche de la réalité. Bien sûr qu'en PIB nominal, les Occidentaux sont encore supérieurs, mais le PIB nominal, on sait que c'est une valeur.
Qu'il soit en parité ou pas, ce qui compte, c'est ce qu'il inclut. Et voilà. Donc, les Américains incluent dedans la prostitution, drogue, les prestations de services, etc. Et comme les prix sont artificiellement gonflés, c'est comme une bulle. Toutes les bulles qu'on connaît, les subprimes, etc. À un moment, l'immobilier aux États-Unis, il avait l'air de valoir trois fois plus cher ce qu'il valait après la crise des subprimes. Donc, vous pouvez créer une bulle qui donne l'impression que vous êtes très riche, mais c'est du vent. Et c'est exactement ce qu'expliquent en fait les BRICS, ce qu'expliquent les Chinois, les Américains, c'est les Chinois et les Russes, c'est qu'ils ont imprimé tellement de milliards de dollars et qu'ils ne s'écoulent pas encore. Mais en réalité, ça ne vaut rien. C'est comme du Monopoly. En fait, ce qui vaut, c'est toujours la force de la diplomatie du bâton, c'est le contrôle des SWIFT, le contrôle de Visa, Mastercard, Internet, etc. Et donc, évidemment, il faut tout faire bouger petit à petit pour pas casser, entre guillemets, une horloge incroyable qui est le monde contemporain, parce que c'est une horloge incroyable, mais c'est une horloge incroyable qui ne profite qu'à un tout petit pourcentage de personnes sur Terre. Et ce que disent les BRICS, c'est que ça ne peut plus durer. On ne peut pas avoir 1% des gens de la planète qui ont 90% de la richesse. Parce que quand Lula dit 37%, c'est dans les BRICS, mais même dans les BRICS, même si ce n'est pas aussi flagrant qu'ailleurs, il y a aussi des disproportions. Moi, j'ai vécu quasiment 3 ans en Afrique du Sud pour participer à la préparation de la Coupe du Monde de football de 2010. Et malgré tous les efforts, entre guillemets, il y a également des milliardaires qui sont nés de cette crise et qui ne partagent pas forcément très équitablement l'argent qu'ils accumulent.
Ouais. Alors, par rapport à ça, M. Scholler, il y a 2 déclarations ou même 3 des chefs d'État des BRICS lors de ce sommet. Il y a celle de Vladimir Poutine qui a appelé à mettre au-delà de la question de la monnaie ou d'un système de paiement commun entre les pays, parce que la monnaie, c'est encore quelque chose de très compliqué et lointain, bien que la dynamique est lancée. Mais lui, il a mis l'accent sur la nécessité de créer quelque chose au sein de ces BRICS qui va appuyer la construction des routes et des voies de logistique. Il y a le président indien qui a mis l'accent, lui, sur la coopération spatiale. Et c'était justement hier le jour où une sonde apparemment indienne s'est posée sur la Lune. C'était l'occasion de fêter ça. Et puis, la question de l'énergie nucléaire et tout. Est-ce que, quand on regarde ça, c'est exactement ce dont ont besoin les pays africains. C'est-à-dire l'agriculture, les infrastructures agricoles, les routes, les transports, et puis les technologies du futur, comme l'espace, comme les communications et comme le nucléaire.
Oui, il y a 2 choses qui sont très importantes, c'est créer des infrastructures et éviter la prédation capitalistique. Et c'est exactement ce que dit le président Poutine, c'est mettre en place de tels mécanismes avec des comités pour avoir un espèce de plan à 15-20 ans, parce que si on construit une centrale nucléaire, on voit les projets de centrales nucléaires en Turquie ou ailleurs, et qui sont des projets russes, hein, puisque la plupart des projets de centrales nucléaires nouvelles dans le monde aujourd'hui sont pilotés par les Russes et les Chinois.
C'est comme en Égypte aussi. Il y a une grande centrale nucléaire, je ne me rappelle pas, de 4 ou de 6 réacteurs qui est en construction actuellement, avec Rosatom.
Oui, exactement. Donc c'est vraiment l'avenir, il est dans ce domaine.
Moi, je voudrais revenir avec vous, Monsieur Scholler, sur une autre question qui faisait partie des sujets qui étaient vraiment attendus lors de ce sommet. C'est la question de la monnaie commune des BRICS. Vladimir Poutine en a parlé, il a qualifié cette initiative de très compliquée et il a assuré que le groupe travaillerait dans cette direction. Et selon vous, quels sont les obstacles à la mise en place de cette devise ?
Alors, le premier obstacle, quand même, c'est un peu l'impression d'aller frontalement contre le dollar. Et ils ont bien veillé, enfin, le dernier discours de Lavrov insistait là-dessus, on n'est pas en guerre contre le dollar, on est en guerre pour permettre aux pays d'avoir leur propre souveraineté monétaire. Et je pense qu'en fait, cette notion de monnaie commune, et c'était un peu ce que Kadhafi avait en tête, en fait, qu'il avait évoqué pour l'Afrique, c'est plus un nouveau panier de référence, mais qui est basé sur des actifs. Donc, ça pourrait être de l'or, de l'argent, des terres, des entreprises publiques ou autres. Donc, quelque chose qui a une valeur et qui pourrait avoir une valeur qui monte, mais quelque chose de tangible, comme était le dollar or, en fait, quand les autres pays ont accepté d'utiliser le dollar pour les échanges commerciaux, ils ont accepté parce que il était convertible en or. Et donc, vous aviez une monnaie, mais la monnaie, en tant que telle, elle avait une valeur. C'était pas juste un outil d'échange, c'était un outil d'échange avec une valeur. Et donc, comment recréer un nouvel outil d'échange qui a une valeur, quand ce n'est plus le cas pour aucune monnaie dans le monde, c'est compliqué, ça prend du temps, mais c'est la clé. C'est-à-dire que pour réussir dans ce domaine-là, il va falloir trouver un outil de référence qui aura une valeur tangible. Aujourd'hui, en fait, la seule valeur tangible, on voit bien avec les bitcoins, etc., c'est uniquement l'usage et éventuellement la rareté qui va donner envie de collectionner. Mais c'est comme des images Panini ou des vignettes de collection. Il n'y a rien de tangible, en fait. C'est juste qu'il y a une rareté plus ou moins créé. Donc l'objectif, c'est de trouver le moyen de créer un outil de référence, et ça va prendre du temps, mais surtout que les pays mettent en place en leur sein une habitude de traiter autrement qu'en dollars, qui était la solution de simplicité.
Je voudrais revenir avec vous également sur le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a déclaré que le moment était venu pour utiliser les devises locales, ce qui est déjà en cours, mais aussi, et ça pour moi c'est très intéressant, des moyens de paiement alternatifs. Et est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs comment ce processus se mettra en place et comment les BRICS peuvent-ils développer des moyens de paiement alternatifs, et ça c'est très important, capables de résister aux sanctions occidentales?
Alors, les Russes l'ont montré. C'est-à-dire que la Russie s'est retrouvée du jour au lendemain avec ses devises internationales confisquées et sortie du système Visa, Mastercard.
Je vais apporter une précision là-dessus. On a en Russie effectivement des cartes Visa, Mastercard, mais elles sont rattachées au système national de paiement, c'est-à-dire qu'elles sont connectées automatiquement au système de paiement russe et donc ne dépendent pas des systèmes occidentaux. Évidemment, avec la coupure du SWIFT, en dehors des frontières russes, celles-ci ne fonctionnent pas. En ce qui concerne la carte MIR, vous en avez parlé tout à l'heure, on peut payer avec ces cartes dans d'autres pays étrangers, mais avec la pression des sanctions occidentales, cela devient assez compliqué. Donc, est-ce qu'un moyen de paiement estampillé BRICS pourrait permettre de, de contourner ces restrictions et de résister surtout.
Oui, les Russes, pour avoir été régulièrement en Russie au cours des dernières années, ont des espèces de systèmes de paiement électroniques, c'est-à-dire avec un smartphone, avec un SMS, etc. Et la Russie travaille là-dessus. Alors je sais que souvent ça inquiète les gens d'entendre parler de monnaie numérique, hein, mais en fait il y a deux types de monnaie numérique. Il y a les monnaies numériques simples comme Bitcoin, où une fois que vous l'avez, en fait si vous ne perdez pas les codes, etc., personne ne peut vous l'apprendre, sauf à trouver votre code et à vous la piquer. Et il y a les monnaies programmables, ce qui va être la monnaie numérique européenne et pas mal de monnaies, c'est-à-dire que celui qui a créé la monnaie, il peut décider, dans le cadre de sanctions ou pour différentes raisons, soi-disant pour lutter contre le terrorisme ou le blanchiment, de saisir l'argent, de saisir des monnaies que pourtant vous avez eues à un moment totalement légalement. Donc les Russes travaillent en fait sur ce type de monnaie, ce type de système, et qui pourrait véritablement faciliter les choses. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de carte de paiement. En fait, on peut avoir juste une application, alors sur des téléphones chinois ou autres, hein, ce ne sera pas forcément disponible sur les téléphones anglo-saxons, mais qui remplacera complètement les cartes et les monnaies avec des portefeuilles virtuels, mais non programmables. C'est-à-dire que l'argent, ce sera comme un billet, en fait. Et une fois que vous l'avez, personne ne peut décider de vous le confisquer.
Oui, tout à fait.
C'est clair.
C'est justement le principe.
C'est une direction dans laquelle la Russie travaille beaucoup. Et je crois que dans la loi russe, il n'est pas possible de proposer des monnaies programmables, en fait. Des monnaies qui seraient confisquées par l'émetteur de la monnaie. Nous, France, on a le sentiment... Et réellement, je pense que ça a été quelque chose de catastrophique ce qui s'est passé avec cet argent confisqué aux Russes. Hein, et les présidents des BRICS ont tous vu ce qui s'était passé. C'est l'impression qu'en Occident, on est historiquement dans des grandes démocraties, mais qui sont devenues tellement tyranniques qu'à tout moment, on peut vous piquer votre argent. Et donc, les gens ont peur de ces nouvelles technologies. Alors qu'on voit bien la sérénité en Russie, où les gens peuvent critiquer le pouvoir parce que parfois c'est à la mode, mais ils ont totalement confiance dans toutes les nouvelles technologies qui sont mises en place, la vie, la nuit, bah, tout le monde vit très bien, si les gens sont gays, ils peuvent être habillés comme ils veulent, mais du moins ils ne font pas de prosélytisme. Et donc c'est un pays extraordinairement moderne. Personne n'a idée de ce qu'est la Russie aujourd'hui, personne n'a idée de ce qu'est la Chine. C'est-à-dire qu'en Occident, on a toujours cette impression qu'on est la seule région du monde moderne, dynamique, avec des médias où les gens peuvent sortir, s'exprimer librement, etc. C'est absolument faux. Et c'est pareil dans les BRICS. Moi, j'ai rencontré, il y en a une ou deux personnes comme ça, je vous les ai signalées, qui sont au Burkina Faso, au Mali. En fait, qui sont des jeunes impliqués qui ont envie de faire mettre... Des médias autonomes qui ont envie de se rapprocher de grands médias comme Sputnik, parce que c'est vrai que sur le sommet des BRICS, vous étiez l'endroit où en direct on avait les infos en français et les infos les plus riches.
Malheureusement, il nous reste très peu de temps. Je voudrais conclure sur quelques expressions. Vous connaissez bien sûr Joseph Borrell qui avait déclaré que l'Europe est un jardin et que le reste du monde était une jungle, qui évidemment menaçait ce jardin. On a Vladimir Poutine qui a fait une déclaration que j'ai notée. Il a déclaré que les adversaires des BRICS sont le Golden Billion qui veut changer le droit international. Et selon lui, ils font tout pour maintenir le monde unipolaire, et ce par l'utilisation de règles à mauvais escient. Et quel commentaire vous pouvez nous faire sur cette phrase du président russe ?
Alors déjà, l'expression même fait penser à Las Vegas, fait penser au casino. Et j'aime bien l'idée de comparer l'Occident à un casino parce que l'Occident est très joueur avec l'argent des autres et passe son temps à faire des paris, du bluff. Donc c'est exact. Hein. Et c'est, mais derrière ce Golden Billion, hein, il y a l'idée de quelque chose de très flashy et qui n'a aucun sens pour pour des gens qui doivent lutter pour avoir de l'eau, pour survivre, etc. C'est donc un espèce de décalage. C'est comme si c'était deux mondes complètement opposés et qui ont du mal à se comprendre. C'est le monde des enfants gâtés et le monde des enfants, des enfants et des adultes matures et sérieux.
Merci beaucoup Bertrand Scholler. Je remercie également mon collègue Kamal Louadj qui a fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui.
Je vous remercie tous.
À bientôt les amis.
À bientôt. Voilà, chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, notre émission Zone de Contact arrive à son terme. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite aux commandes d'une nouvelle émission. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Maliba FM, à vous l'antenne.
Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.